Voilà, donc je reviens à la séance de tir au but, parce que on arrive, et à l'époque, le coach demande, avant de commencer, qui veut tirer le premier, le tir au but. Mm-hmm. Moi, je lève la main. Et coach, il ne me voit pas. Deuxième.
Je lève la main.
Toujours. On fait, troisième, qui va tirer le troisième. Puis l'orgueil, toujours, il lève la main, mais coach, alors où? Quatrième et cinquième. Hein. Les cinq fois, j'ai levé la main et
il n'avait pas pris.
Ou il ne m'a pas vu, ouais. Ou il ne voulait pas, ou il n'avait pas confiance en moi. Voilà. Et donc, on tire les cinq pénalties et on est toujours égalité.
Ouais.
Et on arrive, sixième pénalty, et là, je lui dis, coach, j'y vais.
Là, ce coup-ci, c'est moi.
J'y vais. C'est bon.
Désolé, mais.
C'est bon. Et j'ai la chance qu'il y ait Christian Lopez qui rate son tir au but.
Donc, c'est le pénalty.
C'est un peu plus facile derrière.
Il est le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 435 matchs. Il a inscrit 17 buts, remporté 2 Coupes de France et le premier titre de champion de France de l'histoire du Paris Saint-Germain en 1986. Cette semaine, nous recevons le défenseur et capitaine rouge et bleu, Jean-Marc Pilorget. Jean-Marc Pilorget, bonjour. Bienvenue dans Histoire de Parisien. Tu es né à Paris. Est-ce que tu as toujours rêvé de jouer au Paris Saint-Germain ?
Bonsoir. Oui, je peux répondre oui très objectivement. Et j'ai eu la possibilité de jouer dans un autre club un peu plus d'un an, un an et demi avant de signer au Paris Saint-Germain. J'ai failli signer à Strasbourg. Et ils étaient OK. J'étais jeune joueur, j'avais 15-16 ans. Et ils étaient OK pour eux. Et j'avais le contrat en main. Et puis au dernier moment, j'ai inventé des histoires. J'ai pas envie de quitter mes parents, j'ai pas envie de quitter mes copains.
À 15 ans, ça m'étonnerait, mais c'est une belle excuse.
J'ai pas envie de quitter mes copains.
Ça, c'est plus réel.
Voilà. Mais en fin de compte, j'avais une autre idée en tête, mais j'avais aucun contact avec le PSG. Mais j'avais qu'une envie, c'était jouer dans ce club. Parce que, voilà.
Parce que le club était bébé à l'époque, il venait quasiment de naître. C'était un...
Ouais. Oui, c'était quand j'ai commencé à avoir ces prémices d'envie, le club était en Division 2 et j'ai signé au Paris Saint-Germain l'année après la montée.
Est-ce que c'est ton tout premier souvenir, c'est en tant que joueur du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut considérer que c'est ce stage de recrutement de Pâques ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le stage de recrutement de Pâques ? On est loin, on est à des années-lumière aujourd'hui, mais c'était en 1975, tu avais 17 ans.
Ouais. Alors, à cette époque-là, il y avait un recruteur.
D'accord.
Au Paris Saint-Germain, qui s'appelait Monsieur René Ball. Mm-hmm. J'ai toujours eu une grande admiration, un grand respect pour ce monsieur. Et ce monsieur, ben voilà, c'était la seule personne qui allait sur les stades pour essayer de dénicher des jeunes joueurs avec un peu de talent. Voilà, et j'ai eu la chance d'être convié par ce monsieur à un stage, à Pâques, je me rappelle très bien, et voilà, qui s'est très, très bien passé. Et à l'issue de ce stage, Paris Saint-Germain a décidé de m'engager.
Et tu rentres au centre de formation. Tu changes de vie, en fait.
Oui, je quitte la maison, l'appartement familial.
Ouais.
Ça, c'était la première des choses. Je change un petit peu j'étais dans l'Essonne, je viens dans les Yvelines. J'avais pas de permis encore.
T'avais 17 ans.
Voilà, un grand changement. C'était pas forcément un grand centre de formation comme peut voir à l'époque. On s'est retrouvé tout début juillet. Dans un centre, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était un centre d'émigrés à Achères.
D'accord.
On s'est retrouvés là, au mois de juillet, et j'ai encore le souvenir parce qu'on est tombé en plein ramadan.
D'accord.
Donc,
il y avait des fêtes incroyables.
Voilà, la nuit, voilà.
Fabuleux.
Oui, non, on avait un peu de mal à dormir.
Normal.
Pour commencer, mais voilà, ça c'est mon premier souvenir du PSG.
Comment c'était de s'intégrer à l'équipe à l'époque ? Parce qu'il y avait déjà des noms un petit peu ronflants, je dirais, pour l'époque. Et toi, avec certains jeunes du centre de formation, vous êtes au milieu des pros quand commence la saison. Notamment, tu as parlé d'un stage à Deauville.
Oui. Alors, ça, c'est un petit peu après quand même, parce qu'on arrive au mois de juillet. On arrive au mois de juillet, oui, au mois de juillet. Au mois de septembre, on commence à jouer, mais en équipe réserve.
Oui.
Voilà, l'équipe réserve. Et les résultats de l'équipe première sont assez moyens, on va dire. Et au mois de décembre, y a cataclysme un petit peu, et le club décide d'incorporer 4 jeunes joueurs dans l'effectif. Voilà. Et on est Thierry Morin, François Brisson, Lionel Justier et moi-même. Voilà. On intègre les professionnels à ce moment-là. Voilà. Et on se retrouve dans un stage à Deauville de préparation.
Avec les pros qui vous regardent en disant que c'est qui
qui nous regarde d'un salaire, on va dire. On va dire. Parce que, bon, je ne sais pas, c'est une époque un petit peu différente, quoi, je veux dire. Et les gars, quand il y avait un certain nombre de joueurs avec de la bouteille, quoi, mm-hmm. et qui nous regardent, ouais, pas sympa, quoi, je veux dire. C'est le souvenir que j'ai, en tout cas. Pas ça, sauf le boss, qui était Jean-Pierre Dogliani, qui était le capitaine à l'époque. Et lui, par contre, il est venu nous voir. Voilà.
Et on arrive à ce 21 décembre 1975. C'est un peu Noël avant l'heure. Et c'est la fameuse histoire du PSG Reims et des 4 mousquetaires. Il faut nous la raconter, cette histoire.
Mais je vais revenir, je ne sais pas si on peut le faire,
bien
mais
sûr.
Je vais revenir sur le stage à Deauville parce que j'ai un grand souvenir du stage à Deauville.
C'est qui précède ce PSG Reims.
Qui précède ce match. Le premier entraînement, on le fait sur la plage. On fait des cages virtuelles.
Magnifique. Donc, voilà, entraînement sur la
plage. Sur la plage de Deauville.
Chacun met son pull et ça fait des buts, quoi.
Un peu ça. Et il y avait beaucoup de vent. Et je sais qu'à un moment donné, je frappe.
Ouais.
Voilà. Mais ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'on a commencé l'entraînement. Et le ballon, il part. Et le coach, il me dit, va chercher ton ballon.
Normal.
Et j'ai couru. Mais quand je suis revenu, c'était fini l'entraînement.
Non. Ah oui, là on est.
J'ai dit, je suis mal barré quand même. Pratiquement le premier entraînement, il est comme ça. Et puis, non, ça s'est bien passé après. On nous a expliqué qu'on allait certainement être inscrit sur la feuille de match.
Le cœur bat un peu plus.
Pour le match de Reims. Donc, première possibilité de jouer
à Reims
pro.
En plus. Non, au parc face à Reims.
Au parc, voilà. Et voilà. Et puis, on apprend rapidement qui va jouer, qui va être remplaçant. Voilà, donc c'est la première titularisation dans un stade, aujourd'hui je dis mythique parce que j'ai tellement vécu de choses fabuleuses dans ce stade que voilà, on a une pression, mais pas si énorme que ça.
D'accord.
Je trouve.
Ah, ça c'est l'insouciance de la jeunesse?
J'imagine. Et puis le fait de toucher un rêve.
Ouais.
Voilà, de toucher un rêve. Ça y est, j'y suis, je vais jouer.
Sur la pelouse du parc.
Sur la pelouse du parc, avec le maillot, avec l'écusson du club de mes rêves. Maintenant, il ne faut pas que je me rate.
Ah oui.
Voilà.
Et je crois qu'on peut dire que vous n'êtes pas raté. Je dis vous pour les 4 mousquetaires.
Ouais, on s'est raté parce qu'on a perdu.
Oui.
Le premier match en pro, on le perd. En face, il y avait de bons joueurs. Il y avait un avançant qui s'appelait Carlos Bianchi. Mm.
Voilà. On retrouvera.
Voilà. Mais c'est vrai que les 4 joueurs, on a donné quelque chose de différent, en tout cas, aux spectateurs. Je pense qu'on a montré qu'on avait vraiment envie. On a donné le maximum. Voilà, ça n'a pas fonctionné, mais on a été applaudi, je crois, à la fin du match.
Et c'est marrant parce que c'est précisément ce qu'aiment les supporters du Paris Saint-Germain. Les gars, donnez tout.
Ouais, c'est pas tricher, quoi. Je veux dire, c'est donner le maximum. On est bon et on gagne, c'est génial. On donne tout, on est moins bon, on perd. Mais si on a tout donné,
au moins on a tout donné.
Voilà.
C'est Juste Fontaine, l'entraîneur. On va pour continuer à parler de légende. C'était comment d'être entraîné par Juste Fontaine?
C'était particulier. C'était particulier parce que Justo, c'était pas un entraîneur comme les autres. C'était, je pense qu'il avait déjà l'âme d'un manager.
D'accord.
Voilà.
Avant l'heure.
Oui. C'est pas, il était pas sur le terrain à faire les entraînements. Il était, moi, j'ai toujours cette image de Justo qui est sur un terrain de football, qui est sur le terrain de football à Saint-Germain-en-Laye au Camp des Loges et qui est avec sa moumoute et son cigare. Voilà, c'est pas l'image d'un coach, quoi.
Non.
Voilà. Mais c'était lui. C'était lui et il avait une façon atypique de manager.
Il y a ensuite cette victoire contre Saint-Étienne, c'est ton 6e match en pro, doublé de Mustapha Dalem.
Déjà, quand on me parle de ce, quand j'entends ce nom, je, voilà, ça me...
Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, effectivement, quand j'ai prononcé le nom de Mustapha, il y a beaucoup d'émotions dans votre regard.
Ouais, parce qu'en fait, j'ai connu quelques grands joueurs dont Mustapha fait partie, et j'ai remarqué que tous ces grands joueurs étaient des grands hommes. Voilà, c'était pas des, voilà, c'était des mecs. Voilà, c'était des mecs. C'était
humainement.
C'est ça. C'est des gens droits. C'était pas des tordus. C'était des bons mecs.
Vous finissez 14e de cette saison. On a le sentiment que là, le club, c'est encore une organisation un petit peu bancale, que ça se professionnalise un petit peu. Bon, c'est les débuts du club.
Ouais, tout le monde est en apprentissage, en fait. Mm-hmm. Que ce soit les joueurs, les entraîneurs, peut-être pas.
Un peu moins, juste mais, au moins.
Et les dirigeants, surtout. Les dirigeants qui arrivent dans ce milieu professionnel, alors que ce sont des gens qui viennent d'autres milieux, voilà, qui ont bien marché dans d'autres milieux. Daniel Echter
ouais.
En premier. Voilà, mais c'est des gens qui, au niveau du football, voilà, c'est des novices.
Tu parlais de gens droit, de ce que j'ai pu découvrir en préparant cet entretien. Tu étais très aimé des supporters. C'était quoi comme genre de relation avec les supporters? On était plus proche d'eux que le sont les joueurs aujourd'hui. Ils t'ont souvent montré beaucoup d'attention, de gentillesse.
Oui, je pense qu'il y a toujours eu un respect mutuel. Respect mutuel. Moi, j'ai toujours été un supporter déjà, au départ. Et ces gens-là, comme on l'a dit tout à l'heure, ils aiment bien les gens qui ne trichent pas. Et je pense que j'ai été un professionnel qui n'a pas triché, qui a donné le maximum, avec des hauts, avec des bas. Et je pense que c'est ce que les gens aiment.
Nouvelle saison pour la saison 76-77, il y a un changement d'entraîneur, puis un nouveau changement en milieu de saison. Ce n'est pas idéal, on a l'impression que vous tâtonnez. Comment est-ce que le groupe vit quelque chose comme ça? Les changements d'entraîneur, c'était aussi troublant que ça peut l'être aujourd'hui?
Non.
Non.
Non, parce que j'ai toujours pensé, moi, qu'une équipe, si c'est vraiment une équipe, quel que soit le coach, on doit être capable de faire quelque chose. Voilà, on doit être capable. Et le coach, il nous amène des choses en plus. Mm-hmm. Voilà, des choses en plus. J'ai eu le privilège d'être coach un peu plus tard. Donc, je me suis toujours servi de ça. Changement d'entraîneur. On n'est pas là pour aimer l'entraîneur. On est là pour l'aider. On est là pour lui rendre service. Et on est là pour la même chose. Voilà. Et ça, c'est une chose importante. Voilà. Et quand on est entraîneur, on n'est pas obligé d'aimer ses joueurs. C'est exactement pareil.
C'est un peu mieux, c'est plus agréable.
Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas un joueur qu'on ne va pas le faire jouer. S'il est bon.
D'accord. Pour la saison 77-78, tu signes ton premier contrat pro, enfin. Mmh. Donc, tu as joué 2 ans.
Il y avait des étapes.
Oui.
À l'époque, il y avait des étapes. Il y avait, le premier contrat est un contrat aspirant. Mm-hmm. Ensuite, un contrat stagiaire. Et si on a la chance de faire X matchs dans l'année, au lieu de signer 2 ans, ça devient 1 an et on passe dans la catégorie supérieure, et ainsi de suite. Voilà, tout simplement.
Donc, ça ne change pas grand-chose
un tout petit peu financièrement, parce que le salaire monte un tout petit peu.
Voilà. Oui, c'est quand même mieux. L'entraîneur, nouveau changement d'entraîneur, c'est Jean-Michel Larquet qui prend la tête de l'équipe. Personnalité.
Ouais, grand joueur.
Grand joueur.
Grand joueur. Garçon intelligent. Mais qui n'était pas fait pour le métier d'entraîneur, tout simplement.
Ah oui, c'est pas...
Voilà, c'est pas...
Un grand joueur ne fait pas forcément...
Non. Et je crois que Jean-Michel, on l'a vu, sa carrière s'est arrêtée là. Et pour ça, je dis, c'est un garçon intelligent. C'est parce qu'il a vite compris que c'était pas son truc, quoi. Je veux dire, voilà. C'était pas un coach, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais. C'était un joueur encore, voilà, qui dirigeait une équipe.
Est-ce que tu commences à te sentir entre guillemets comme un ancien? C'est ta 3e saison, tu commences à dire à l'aune de l'âge du club, là je suis un ancien.
Non, j'ai jamais fonctionné comme ça. Je continuais mon aventure. Voilà.
78-79, c'est l'arrivée en fin de saison de Velibor Vazovic. C'est un entraîneur qui t'a marqué?
Oui. Ah ouais, celui-là, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. Mais lui, c'était un des premiers à, au niveau du management à vraiment aller voir les gens individuellement.
D'accord.
Voilà, et à faire du management individuel. Et ça, quand on a la chance de vivre ça, alors qu'à l'époque, c'était pas forcément très courant. Mm-hmm. C'était pas forcément très courant.
Ben, il n'y avait pas le soin de la personne individuelle.
Non, on s'intéressait. Voilà, il y avait le joueur de football, mais mm-hmm. le joueur de football, c'est un homme. Oui. Un homme qui a une vie. Et si on ne s'intéresse pas à la vie de l'homme, c'est compliqué de manager le joueur. Ça, c'est mon opinion, en tout cas. Il y avait eu quand même un certain nombre de résultats aux Pays-Bas, Ajax. Et voilà, ce mec-là, ouais, il avait une personnalité en plus forte. Il ne mâchait pas ses mots. Personne qui l'impressionnait, ni dirigeant, ni joueur.
Justement, tu parles de dirigeant. Pour la saison 78-79, il y a un changement de président. Donc, on parlait de Daniel Echter, bien sûr. C'est Francis Borrelli qui prend la suite. Ça vous changeait quelque chose, vous? Vous aviez des rapports particuliers avec les présidents, peut-être plus Francis Borrelli que Daniel Echter?
Mais c'est-à-dire qu'on avait, ouais, on avait vraiment des rapports différents avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, je peux vous expliquer un petit peu ce qui se passait. C'est qu'on jouait, par exemple, le samedi. Le dimanche, on avait un décrassage, l'entraînement du lendemain. Mais l'entraînement du lendemain, c'était Francis Borrelli qui venait avec tous ses amis du showbiz, de Charles Tallard, et qui venait faire un match de foot avec nous. Quoi. Je veux dire, c'était ça, le décrassage.
Voilà,
on a vécu des choses comme ça. Donc, génial, rien à voir avec les trucs stricts qui se passent aujourd'hui.
Quoi.
Voilà, on n'était pas du tout dans ce... Donc,
c'était le foot du dimanche, le lendemain de match. Enfin, ce qu'on appelle le foot du dimanche.
Ouais, mais on avait l'impression que pour les dirigeants, c'était plus important le dimanche que le samedi.
Ah, mais c'est sans doute.
Mais c'était génial. C'était génial. Voilà, donc, quand il y a le changement de président, Francis, on le connaît, quoi, je veux dire. Il est là depuis le début. Donc, je dis toujours Francis parce que pour moi,
je comprends.
C'est un homme qui m'a marqué.
79-80, encore une saison compliquée, 4 entraîneurs, donc Velibor Vazovic, Pierre Alonso, Camille Choquet qui font que 3 matchs, et puis Georges Perroche. Mmh. Là, on va s'installer un petit peu dans un peu de stabilité. Le groupe reste soudé face à ces changements entraîneurs, présidents. L'essentiel, c'est de faire les matchs sympas du dimanche matin.
Non, pas exagérer. Le groupe n'est pas atteint. Le groupe n'est pas atteint.
Les résultats, ils sont assez stables. Vous êtes 13e, 9e. Ça s'améliore un petit peu. 7e cette année-là, 79-80.
Ouais, c'est un petit peu, mais c'est difficile. Oui. C'est difficile. Et puis on a un souci, je trouve, moi, à cette époque-là, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. Paris Saint-Germain, c'est un club qui fait rire, en fait.
D'accord.
En province, partout. Ah ouais. Bon, déjà, c'est le club de la capitale.
Oui,
donc
vous êtes les vedettes.
Mais comme on n'a pas de résultats, c'est un club de touristes, quoi, je veux dire.
D'accord.
Et c'est pas si simple à vivre. C'est pas si simple à vivre. Voilà, même si ça donne une motivation supplémentaire.
Oui, parce mais il y a un vrai manque de respect.
Mais c'est pas évident.
Donc là, il y a un peu de stabilité qui s'installe au club. Il n'y a pas beaucoup d'arrivées pour la saison 80-81. Et vous gardez le même entraîneur.
Oui, Georges.
Est-ce que toi, tu as le sentiment d'évoluer aussi en tant que joueur? Alors, je vais dans ta carrière. Tu as été arrière latéral, puis stopper, puis libéraux. On va juste expliquer les termes pour les plus jeunes qui peut-être n'ont jamais entendu. Stopper et libéraux, c'était vraiment des postes en football.
C'était des... Oui, des vrais postes, parce qu'à l'époque, le stopper était le mec qui marquait l'avant-centre.
Voilà.
Voilà, qui était, en charge de l'avant-centre. Parce qu'il y avait un avant-centre, il n'y avait pas deux à l'époque. Il y avait un avant-centre, et donc le stopper marquait l'avant-centre, et le libéro était derrière lui, toujours en couverture. Voilà, c'est la différence entre les deux postes.
Et toi, tu as tout fait?
Non, oui,
pas
j'ai
tout fait. Enfin,
oui, oui, si, 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 oui, oui. Défensivement, j'ai joué à tous les postes. Mais je me suis toujours considéré, même s'il y avait ces termes-là, comme un défenseur central. Voilà.
D'accord.
Voilà, chose qu'on dit aujourd'hui, quoi.
Oui.
Mais oui, j'aimais bien jouer les deux postes. Voilà.
C'est, cette année-là, vous finissez cinquième. Est-ce que cinquième, on commence quand même, vous êtes un peu moins l'équipe de touristes, ça commence à sentir le haut du tableau ?
Oui, mais on est toujours... oui, on commence, nous, à, ouais, à voir que ça
vient. Ça y est, ça prend.
Oui, ça commence. On voit les dirigeants qui essaient de faire les choses bien.
Georges Perroche s'installe.
Oui, voilà, il y a un peu de stabilité. Voilà, mais on sait pertinemment que tant que ce club n'aura pas un titre, on ne sera pas considéré.
Ça, magnifique.
On le sait.
Jean-Marc, je dois dire qu'effectivement, tu as toujours la fine passe, parce que c'est exactement là que je voulais en arriver. Coupe de France 82 contre Saint-Étienne, 0-0. Puis prolongation, 2-2. Puis les tirs au but. Et c'est là que... Ton rôle est essentiel.
C'est peut-être l'histoire, mon histoire qui commence, quoi, je veux dire. Et c'est un souvenir qui reste à jamais, parce que bah, voilà, je réussis à marquer le dernier penalty. Je pourrais revenir après parce qu'il y a une belle histoire sur ce penalty. C'est donc le premier titre du PSG, mon premier titre. Voilà. Et puis un scénario fabuleux. Voilà, et on est peut-être...
En quoi il est fabuleux, le scénario ?
Parce qu'il y a des choses qui se sont passées sur ce match qui étaient hors normes. Les buts en fin de rencontre, Francis qui fait un show, et puis voilà, séance de tir au but. Voilà, donc je reviens à la séance de tir au but, parce qu'on arrive, et à l'époque, le coach demande... Avant de commencer, qui veut tirer le premier ? Le tir au but. Mm-hmm. Moi, je lève la main. Et coach, tu ne me vois pas. Deuxième.
Je lève la main.
Toujours. On fait. Troisième, qui va tirer le troisième ? Puis l'orgueil, toujours, il lève la main. Mais coach, alors où ? Quatrième et cinquième. Hein. Les cinq fois, j'ai levé la main. Et
il n'avait pas pris.
Ou il ne m'a pas vu, ou il ne voulait pas, ou il n'avait pas confiance en moi. Voilà. Et donc, on tire les cinq pénalties et on est toujours égalité.
Ouais.
Et on arrive, sixième pénalty, et là, je lui dis, coach, j'y vais.
Là, ce coup-ci, c'est moi.
J'y vais, c'est bon.
Désolé, mais...
C'est bon. Et j'ai la chance qu'il y a Christian Lopez qui rate son tir au but.
Donc, c'est le pénalty.
C'est un peu plus facile derrière, même s'il y a de la pression, même si...
Bah, il y a quand même de la pression, parce que...
Mais c'est
donc, ça s'arrête, là, ces égalités.
Il a raté avant. Et voilà, donc, il y a ce dernier tir au but.
Et c'est la victoire. Ça représente quoi, un titre ? Enfin, c'était... J'imagine quand on embrasse la carrière de joueur professionnel, c'est aussi pour gagner des titres. Et quand on embrasse cette carrière dans un club tout jeune, qui n'est pas tout à fait respecté dans le reste du pays, il vaut double ce titre.
Ouais, il est génial. Et si, moi, je sais qu'à chaque fois, on me pose la question, mais si je dois ressortir un moment dans ma carrière, c'est celui-ci, parce que il nous a procuré il m'a procuré, je ne veux pas parler pour les autres, il m'a procuré une joie fabuleuse, quoi, je veux dire, parce que tout ce que tu as dit, voilà, la difficulté de s'imposer au niveau national, enfin est arrivée, et c'est génial.
Vous avez le sentiment de rentrer dans une nouvelle dimension, ou est-ce que c'est, parce que ça signifie aussi découvrir l'Europe?
Alors,
il y a beaucoup de choses qui se passent.
Alors, ouais, mais encore une fois, il y a encore un truc qui revient. Ouais, mais PSG, c'est une équipe de coupe et de coups.
D'accord.
Voilà, sur la longévité.
Ouais, ils ne tiennent pas.
Donc, il faut un titre de champion.
Mais oui, bien sûr.
Pour ça, et voilà. Donc, et là, dans nos têtes à nous, c'est ça l'objectif. Maintenant, c'est prouver que voilà, sur une année, on est capable de le faire.
Vous avez fait un beau parcours en Coupe d'Europe, même si j'imagine qu'il y a un peu de regret. Vous êtes éliminé en quart de finale par Watershy. Mmh. Mmh. 2-0 à l'aller, puis défaite au retour. C'est de l'apprentissage de Coupe d'Europe.
Oui, c'est complètement l'apprentissage. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui débutent dans cette compétition et très peu qui ont un peu d'expérience. Et... on n'a pas été bon. On n'a pas été bon sur le match retour, on n'a pas été bon du tout, même si l'arbitrage, ceci, on ne fait pas l'histoire. Mais mon analyse, c'est qu'on n'a pas été bon.
peut-être que vous aviez la tête à autre chose, parce que le championnat, il est important, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Il faut, sur la durée, sur la longueur d'un championnat, il faut montrer que vous êtes capable. Cette saison-là, vous terminez troisième de première division. Ça y est, on est sur le podium, là.
Ouais, mais c'est pas suffisant.
Oui, mais...
C'est bien. Mais ce qu'il faut comprendre, on n'est pas des joueurs du PSG comme on voit aujourd'hui, qui ont l'habitude de gagner des titres de champion. Ouais. C'est normal, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, si tu ne gagnes pas, ce n'est pas normal. Mm-hmm. Nous, on a un peu les dents qui commencent à pousser, quoi. Je veux dire, on a vraiment envie de gagner, quoi. Voilà, c'est hyper important pour nous. Voilà, pour le club, pour les gens derrière, mais pour nous aussi.
Parce que bon, cette saison-là, vous finissez troisième, mais vous gardez votre Coupe de France.
Oui.
Finale contre Nantes.
Oui.
Donc, c'est quand même que ça s'installe tout en haut.
Il y a quelque chose qui commence à se passer, parce que deux finales de Coupe de France de suite, c'est pas...
Oui, c'est pas anodin, et puis deux victoires.
Voilà, et deux victoires, oui, dans un contexte aussi un petit peu différent, contre une superbe équipe en face. Parce que Nantes, à l'époque...
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, le Nantes de l'époque.
Il y a des super joueurs, et c'est vraiment une belle équipe, quoi.
La saison suivante, on reprend un petit peu les changements d'entraîneur. Lucien Leduc qui vient vous entraîner. Il y aura le retour de Georges Péroche, parce qu'on va retourner aux fondamentaux en fin de saison. Mais c'est le retour en Coupe d'Europe, et cette fois, c'est la Juve de Platini qui vous élimine en 8e.
Oui.
Oh, c'est pas déshonorant quand même d'être...
Pour moi, c'est un regret.
D'accord.
Honnêtement, c'est un regret parce qu'on a la possibilité de passer, honnêtement, sur les deux matchs.
Ah, c'est rageant.
Oui, sur les deux matchs, on sait qu'on est passé à côté de quelque chose. Voilà.
Et pourtant, c'est la Juve de Platini.
Oui, oui, mais justement, avec Michel, mais il y avait
des super... C'était la Juve. Hein,
il y avait des super joueurs avec lui, quoi.
Mais quand même, vous êtes en haut du classement, enfin, vous êtes installé, vous existez en Europe. Mais tout ça, si je peux me permettre, c'est presque anecdotique à ce moment de votre vie, parce que vous vous blessez gravement dans un accident de voiture. Mmh. Vous allez être absent 18 mois. Mmh. C'est une éternité quand on est joueur de foot.
Ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Je m'explique. Quand ça m'arrive... Je suis aux portes de l'équipe de France. Mm-hmm. Je pense que je vais aller jouer en équipe
de France. À l'Euro 84.
Mais cet accident-là m'a transformé humainement. Je suis devenu un autre homme. Ma fille qui avait 18 mois, elle n'a pratiquement rien dans l'accident. C'est fabuleux. J'ai une blessure qui est grave. J'entends les chirurgiens parler alors que je ne dois pas entendre ça. J'ai encore ce souvenir de ma maman qui demande au chirurgien « Va-t-il rejouer au football ?» Et le chirurgien lui dit « Madame, avec tout le respect que je vous dois, s'il remarche, ça sera bien. » Et je ne devais pas entendre ça. Et j'ai entendu. Et ce jour-là, j'ai dit « Ah ouais ?» Et ça a été un leitmotiv fabuleux pour moi. La première des choses. La deuxième, c'est quand je suis arrivé en centre de rééducation, je suis arrivé avec des états d'âme, parce que je joue plus au football. C'est grave, mais quand on arrive là et quand on voit des jeunes qui ont eu des accidents aussi et qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, c'est-à-dire qu'ils sont dans les fauteuils roulants, ils ont perdu des jambes, ils ont perdu des bras. Ça dure 5 minutes quand on regarde tout ça. Et au bout de 5 minutes, on dit « t'as rien, ferme ta gueule, t'as rien. Tu n'as rien. » Et de ce jour, je crois que je ne me suis plus jamais plaint. Ça a transformé ma vie d'homme. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se plaignent pour rien. Voilà. Et donc, ça a été 18 mois difficile, rééducation, et encore, je me rappellerai les kinés qui me disaient « Jean-Marc, travaille un peu, putain, t'es pas sérieux. » Ouais, mais je suis pas sérieux, mais je me connais bien. Je sais comment. Voilà. Et voilà, j'ai mis 18 mois à revenir, et c'était génial.
Le... quand vous êtes de retour, il y a un match amical et Francis Borrelli assiste à ce match. Est-ce que vous vous en souvenez?
Non.
Avec un bouquet de fleurs.
Ah oui, bien sûr. Ah. Oui, ça oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, c'est je pense que Francis, il a eu, avec un certain nombre de joueurs, des rapports père-fils. J'ai pas été le seul, hein.
Il y en a eu
un certain nombre, mais j'ai fait partie de ces gens-là. Voilà. Et je l'ai aussi considéré comme un père, deuxième père, à des époques importantes. Quand on parle de l'accident, ben, il a été là. Il a été là. Il était, dès que j'ai été rapatrié en avion, c'est lui qui a envoyé l'avion sanitaire. Il était à l'hôpital. Il devait partir au Brésil. Il a annulé son voyage. Il est resté là. Voilà. Et il a toujours été présent. Il a toujours été présent.
Saison 85-86, vous retrouvez les terrains, vous retrouvez le PSG, vous retrouvez le football. C'est Gérard Rouillet qui est aux commandes. Mmh. Ça se passe comment, le retour?
Alors, moi, j'ai eu plusieurs périodes avec Gérard.
Plusieurs retours?
Non, plusieurs périodes avec Gérard. Alors, la première, elle est géniale. C'est quand il prend les rênes de l'équipe, le premier jour. Il m'appelle, il me dit « Viens, on va se parler. » En tête à tête. Et il m'a dit « Voilà, je sais que ça fait 18 mois que tu n'as pas joué. Je te connais. Enfin, je te connais. Je connais le joueur.
Oui.
Je connais le joueur. Je te le dis aujourd'hui, premier entraînement. Je vais te faire confiance, tu vas jouer. » Ouf. Alors là c'est... Je suis sorti, j'étais comme ça.
Voilà, c'est bon.
J'ai dit, c'est génial, quoi. Je veux dire, il me fait confiance, putain, il me fait confiance. C'est fabuleux. Et voilà, il a eu raison de me faire confiance. On a fait tous les matchs. J'ai fait tous les matchs.
Tous les matchs de la saison.
Ouais, et j'ai fait tous les matchs en trichant. Parce que il y avait des choses que je ne pouvais plus faire. J'avais mal.
Ah, j'imagine, ouais.
Et quand j'étais sur le terrain, il y avait des positions où je savais qu'il ne fallait pas que j'aille dans cette position parce que j'allais me retrouver en difficulté. Donc, je me mettais dans des... J'ai beaucoup calculé, gambergé pendant un an.
Et voilà. Pourtant, vous êtes... c'est vous et Joël Batz, vous faites tous les matchs de ce championnat.
Ouais.
Et ce championnat, vous le gagnez.
Et on gagne le titre de champion. Donc là, ça a été... ça a été génial. Ça a été génial. Et voilà, c'est pour ça que j'ai
vous remportez quand même le premier titre de champion de France du Paris Saint-Germain. C'est...
Ouais, ben voilà, c'est pour ça que je sais que je fais un petit peu partie de l'histoire.
Ah oui, voilà. Vraiment.
Et du début, en tout cas, du début de l'histoire. Voilà, donc ça, c'est génial. Mais bon, pour en venir à Gérard, il a été bon. Lui, il a été très bon ce jour-là, avec moi.
Et ça change quelque chose, cette conquête du titre, au-delà de... C'est votre troisième titre, avec les deux Coupes de France. Mais celui-là, c'est différent, puisque comme tu l'expliquais, c'est sur la continuité. Là, on juge l'ensemble de la saison.
Ben voilà, là je pense qu'on passe un peu
ça
moins...
Ça y est, c'est fini, les touristes.
On passe un peu moins pour les touristes et des mecs qui sont là pour faire des coups, quoi. Je veux dire, là, on commence à prendre le club au sérieux. Voilà. Je pense que ça, c'est le début.
Et en 86-87, tu es capitaine.
Mmh. Ouais, mais
ça change pas. Non. C'est marrant parce que
non, c'est pas parce que j'avais
un brassard
autour que j'ai toujours eu l'âme d'un capitaine, honnêtement, d'un mec qui était là pour le club, qui était là pour moi bien entendu, mais pour les autres aussi. Voilà, j'ai toujours essayé de porter la parole pour le groupe. Voilà. Donc, capitaine, brassard ou pas brassard, ça n'a rien changé pour moi.
C'est des périodes que tu considères comment? Parce qu'il y a quand même un enchaînement assez incroyable entre l'accident, cette période où tu es loin des terrains. Donc, souvent, c'est loin des terrains, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. Mmh. Et derrière, cet apogée avec le titre, c'est presque toute la beauté de la vie, du pire au meilleur.
Ouais, mais c'est... On peut dire à tout le monde que
la fragilité aussi.
Ouais, mais on peut dire à tout le monde qu'il y a toujours de l'espoir. Mm. Voilà, c'est même quand c'est difficile, même quand on pense qu'on ne peut pas y arriver, ben si, on peut peut-être y arriver. Voilà, faut essayer de s'en donner les moyens. Et je crois que c'est comme dans la vie, faut pas avoir de regrets. Faut tout donner, faut donner les choses. Voilà, et il y a rien de pire que pas essayer en tout cas.
Saison 87-88, vous partez en prêt. Tu pars en prêt à Cannes. Mm. Comment ça se... Bah, c'était voilà, pas tout à fait voulu.
Non, mais c'est pour ça que... Et après, c'est pour ça que ça a été la deuxième période difficile avec Gérard.
Avec Gérard.
Avec Gérard. Parce que... la deuxième saison, Gérard a changé. Peut-être nous aussi. Mm-hmm. Mais... Et je me rappellerai toujours cette période qui a été difficile. Et ça a duré un certain temps. Et j'ai rien dit, j'ai fait mon boulot, j'allais jouer de temps en temps avec l'équipe réserve. Et donc, je me suis démerdé, j'ai essayé avec mes réseaux, il n'y avait pas d'agent à l'époque.
Oui, non,
voilà, et j'ai réussi à me faire prêter à Cannes. Et j'ai le souvenir, c'était Jean Fernandez, l'entraîneur. Mm-hmm. Jean, et la première chose qu'il m'a posé comme question, il m'a dit, il me reçoit dans son bureau. Et avant que je signe, hein, parce que je venais le voir pour un entretien, et il m'a dit la première question, il m'a dit si je te fais pas jouer, il se passe quoi? Je lui ai dit excusez-moi, je lui ai dit vous avez eu Gérard au téléphone?
Oui, je pense que vous êtes appelé, non?
Il m'a dit oui. Et je lui ai raconté un peu le truc. Oui, voilà, j'ai signé une année à Cannes. Jean Fernandez m'a fait jouer quand je suis revenu au parc, il m'a donné le brassard. Voilà, je pense que c'était pour emmerder Gérard aussi. Voilà, donc mais j'ai passé une année fabuleuse à Cannes, aussi bien humaine qu'au niveau du football.
Et vous revenez au PSG?
Ouais. Ah ouais. Je reviens. Et donc Gérard est parti avec une saison qui n'était pas bonne, leur saison.
Non, elle n'était pas bonne.
Elle n'était pas très bonne, leur saison. Ils ont failli descendre même. C'était pas loin. Voilà, donc il y a un retour.
La décompression post-titre.
Ouais. Mais il y avait des choses incohérentes qui ont été faites dans toute la saison, de toute façon. Mais bon.
Il y a quand même quelque chose que tu garderas et que j'ai l'impression que tu vas garder encore un bon petit moment, c'est ce record.
Ah, je crois que je ne vais plus le garder, moi.
Ah oui?
Ah non, je pense qu'il va tomber. Je pense qu'il va... Il a failli tomber avec Marco.
Verratti. Le record du nombre de matchs joués avec le Paris Saint-Germain, 435 matchs officiels et 371 matchs en alors D1, Ligue 1. Mm-hmm. Ça fait deux records, en fait.
Oui, je ne sais pas. Non, je pense que Marquinhos va le, s'il continue comme ça.
Oui.
Voilà, si, je ne sais pas s'il est capable de le battre dans la saison. Ou...
Après, les records sont faits pour être battus. Mais oui. Là, on parle quand même d'un record qui dure depuis les années 80.
Mais s'il est battu, c'est génial parce que c'est tellement rare dans le football aujourd'hui de voir des garçons qui restent aussi longtemps dans un club. Donc voilà, ça c'est un côté positif.
Qu'est-ce qui reste encore de vivant en toi du Paris Saint-Germain?
Les souvenirs. Les quelques amitiés, les amitiés disparues. Voilà, et puis, même si je suis un petit peu détaché du football aujourd'hui, j'aimerais bien que ce club réussisse le rêve de tout supporter, de tout joueur, de tout dirigeant, de tout ancien joueur, de gagner une Ligue des Champions. Voilà, j'aimerais bien.
Comment est-ce que vous vous êtes séparés? Je n'ai même pas envie d'utiliser ce mot « séparé » avec le Paris Saint-Germain.
C'est encore une fois, c'est un homme avec qui j'ai eu des super rapports. Tommy Savinovich, qui était pour moi le meilleur coach.
D'accord.
Que j'ai pu avoir à tous les niveaux. Et en fin de saison, il m'a dit « Marco, je vais prendre un défenseur qui sera meilleur que toi. »
Ok, merci, bonne journée.
« Et toi, sur le banc de touche, t'es trop dangereux pour moi. »
Oui, au moins, c'était clair. Il n'y a pas de mensonge.
Voilà, c'est...
Violent, mais clair.
Je lui ai dit, t'as raison, coach.
Oui, je resterai pas sur le banc.
Voilà, mais c'est peut-être pas la sortie que j'aurais voulu. Mm. Voilà. Mais comme on dit dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets. Je l'ai dit tout à l'heure. J'en ai pas.
C'est passé.
Oui, oui, bien sûr que c'est passé. Heureusement que c'est passé.
Oui.
Oh, ça fait quand même quelques,
oui, ça serait douloureux.
Quelques semaines,
hein, voilà.
Quelques semaines quand même. Mais non, je garde. Mais en fait, c'est comme dans la vie, je garde que les bons souvenirs. Voilà, j'ai toujours eu cette faculté à garder le positif chez les gens. Et alors que j'ai souvent fait des tests avec des joueurs en demandant quels sont les défauts d'un tel.
Il y en a qui arrivent.
Et ses qualités. C'est plus complexe. Là, ça arrive moins vite. Et moi, je suis un petit peu dans l'inverse. Je cherche d'abord les qualités des gens. Ça m'intéresse plus que les défauts.
Il y a quelques jours, vous avez retrouvé le Parc des Princes. Ça restera pour toujours votre jardin ?
Ah, et quand j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, voilà, j'ai toujours... c'est magique. Voilà, c'est quand j'entends la chanson « Paris est magique », mais ouais, le stade, il est magique. Pour moi, il est magique. Quand j'arrive sur ce terrain, ouais, il se passe toujours quelque chose. Il y a plein de souvenirs qui reviennent. Toujours. C'est comme ça. C'est pas nostalgique, c'est bien. C'est bien, mais c'est un endroit, c'est un endroit particulier pour moi.
Jean-Marc, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec nous, avec beaucoup d'émotion. Merci beaucoup.
C'est gentil, merci à toi.
On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisien. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.